Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Alors la première dans l'évangile selon Marc au chapitre 8, depuis le verset 22 jusqu'au verset 38. Marc, chapitre 8, depuis le verset 22. Lisons la parole de notre Seigneur. Ils se rendirent à Bethsaïda, on lui amena un aveugle, et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda, « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrit les yeux et dit, « Je vois des hommes, comme des arbres, et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « Ne rentre pas au village. » Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée et de Philippe, et en chemin il leur posa cette question, « Les gens, qui disent-ils que je suis ?» Ils dirent, « Jean-Baptiste, d'autres, Élie, d'autres, l'un des prophètes. » « Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il disait ces paroles ouvertement. Et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre et lui dit, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » La prochaine lecture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, les versets 25 à 26. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle le Christ, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et puis on retourne en arrière et on va dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 52, depuis le verset 6 jusqu'au chapitre 53, verset 12. « C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que c'est moi qui parle, me voici. Qu'ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle, qui publie la paix, du messager de très bonne nouvelle, qui publie le salut, qui dit à Sion, « Ton Dieu règne. » C'est la voix de tes sentinelles. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris de triomphe, car de leurs propres yeux, elles voient l'Éternel revenir à Sion. Éclatez ensemble en cris de triomphe, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. » Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel va devant vous, et le Dieu d'Israël sera ton arrière-garde. Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'était plus celle des fils d'Adam, de même il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec les riches, quoiqu'il n'ait pas commis de violence, et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasira ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Jusqu'ici la lecture de la parole en vue de la prédication.
Alors sans nerf optique, nous ne pourrions rien voir. Parce qu'en fait le nerf optique, c'est celui qui amène les informations au cerveau pour que le cerveau puisse comprendre ce qui se passe et voir les choses en fait. Eh bien, de même, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien comprendre dans la parole de Dieu, car le cœur ne recevrait aucune information. Et nous continuons donc à compter sur l'œuvre du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Et nous voici comme à chaque fin de mois, dans le journal de Pierre écrit par Marc, le disciple de Jésus, un témoin oculaire qui était présent à côté de Jésus, et qui nous amène aujourd'hui dans un cheminement qu'il a vécu avec Jésus et ses amis disciples. Je me retrouve où j'étais. Il a reconnu Jésus comme l'aveugle qui voyait des hommes comme des arbres. Dans l'histoire, il y a un aveugle qui, d'un coup, voit les hommes comme les arbres. Et en fait, Pierre a reconnu Jésus un petit peu comme cet homme qui voit des hommes comme des arbres avant qu'il fixe Jésus pour réellement voir qui il était. Et pour Pierre, c'était clairement à la résurrection que tout est devenu. Nous allons voir quatre parties dans cette prédication qui parlent de deux aspects importants de la mission de Jésus-Christ. Alors la première partie, nous parlerons d'un miracle en deux temps. Ensuite, nous parlerons d'une question essentielle qui nous parlera du premier aspect. Ensuite, une révélation importante qui nous parlera du deuxième aspect. Et nous terminerons par une décision conséquente. Donc un miracle en deux temps, une question essentielle, une révélation importante et une décision conséquente. Commençons par ce miracle en deux temps et nous allons relire les versets 22 à 26 de Marc 8 pour les avoir bien en tête. Donc là, c'est les disciples et Jésus se rendirent à Bethsaïda. On lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrit les yeux et dit « Je vois des hommes, mais comme des arbres. » Et il marche. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre pas au village ». Voilà donc cette partie de ce miracle en deux temps. La manière de Jésus ici nous surprend. Et il n'agit pas comme d'habitude par une guérison directe. C'est le seul miracle en deux temps que nous ayons d'ailleurs dans les évangiles, et Marc est le seul qui le rapporte. Alors Jésus a-t-il perdu de la puissance, ou s'est-il trompé la première fois, ou bien est-ce que le malade n'avait pas assez de foi? En fait, rien de tout cela. Jésus est parfaitement maître de la situation. Il l'a montré par tous les miracles qu'il a accomplis. Guérison de maladies incurables, résurrection, tempête apaisée, multiplication de nourriture, marche sur le lac, et même guérison à distance. En fait, Jésus est clairement tout puissant. Ici, Jésus veut enseigner ses disciples. Et je vois en fait 5 enseignements dans ce miracle que Jésus fait en dehors du village, loin de la foule et en deux temps. Or, l'enseignement principal, c'est l'illustration du cheminement de ses disciples. Pierre va exprimer ce que les disciples ont compris et qu'ils vont exprimer dans les jours qui suivent. Et Jésus veut préparer ce point capital, ce tournant dans l'évangile selon Marc. Donc, ce qu'on va voir tout à l'heure, cette reconnaissance de qui est Jésus, c'est un tournant dans cet évangile. Et Jésus le prépare. Les disciples, avec tous les miracles que Jésus avait accomplis, ont compris un aspect de la personne, de la mission de Jésus. Comme l'aveugle peut voir comme les mouvements d'une personne, mais pas les reconnaître dans un premier temps. Il voit que Jésus est le Christ, qu'il est le Messie, qu'il vient de Dieu, et cela ne fait aucun doute. Et Pierre, dans ce journal écrit par Marc, ne remettra plus en doute par la suite dans cet évangile le fait que Jésus est le Messie, qu'il est le Christ. Mais les disciples ne comprennent pas encore un deuxième aspect de la mission de Jésus, qui est l'aspect du serviteur souffrant. Il va leur expliquer, mais les disciples ne vont pas comprendre tout de suite. Ils auront besoin de fixer les regards sur Jésus pour distinguer clairement. Et cela permettra à Pierre, dans l'avenir, ce miracle, de comprendre pourquoi il sera repris aussi sévèrement, et il comprendra pleinement cela lors de la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est le premier enseignement, et l'enseignement principal en fait de ce miracle, c'est le cheminement des disciples. Mais j'aimerais vous parler des 4 autres enseignements que nous pouvons tirer, qui ne sont pas les enseignements principaux, mais qui peuvent nous intéresser. Donc le deuxième, c'est la perception spirituelle. Il y a dans nos vies plusieurs sujets que nous comprenons par étapes. D'abord les grandes lignes, nous voyons quelque part bouger, mais c'est encore flou. Pour prendre un exemple, par exemple, moralement comprendre que la sexualité pour le cadre du mariage entre un homme et une femme, c'est comme voir un homme comme un arbre qui marche. Il y a quelque chose qu'on voit, jusqu'à ce que l'on comprenne la notion de l'alliance exclusive reflétant l'alliance spirituelle de Jésus et son Église. Et là on voit clairement. Par exemple. Deuxième enseignement, c'est le cheminement vers la conversion, qui est souvent vécu par étapes, où le salut en Jésus-Christ est perçu comme vrai, sans le comprendre vraiment. Et ensuite, la vue distincte vient lorsque la repentance est vécue dans une foi authentique et totalement dépendante de Dieu. C'est merveillant que l'Évangile, en fait, touche chaque domaine de notre vie. Un troisième enseignement peut être en lien aussi avec la guérison physique, qui est parfois vécue par étapes, et la guérison complète d'une maladie étant parfois sur terre, ou parfois le sera dans l'ultime étape au ciel. Et quatrième petit enseignement, c'est la compréhension de l'avenir. En fait, lorsque Jésus nous touche, nous sommes comme des hommes qui voient des hommes comme des arbres qui se mouvent, mais qui voient pas clairement encore. Mais la vue distincte, nous l'aurons à la résurrection, comme les disciples l'ont eu par Jésus-Christ à sa résurrection. Mais 2 choses sont claires et identiques à ces 5 enseignements. Jésus ne quitte pas l'aveugle avant de l'avoir complètement guéri. Jésus ne quitte pas l'aveugle avant de l'avoir complètement guéri, premièrement. Et deuxièmement, Jésus choisit sa manière d'agir indépendamment de ce que nous pouvons penser ou demander. Hein, les gens sont venus lui dire « touche-le ». Hein, ils l'amènent vers lui et puis lui disent « touche-le ». Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend par la main, puis il le sort du village, enfin, puis on a vu toute l'histoire. Il agit différemment. En plus, il agit en deux temps. Jésus agit indépendamment de ce que nous pouvons penser. Maintenant que les disciples ont vécu cet enseignement, qui leur permettra de comprendre par la suite qu'ils avaient besoin de connaître ces deux aspects de la mission de Jésus, eh bien, passons au point suivant qui parle de ce premier aspect. Une question essentielle. Alors, relisons les versets 27 à 30 de Marc 8. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée et de Philippe. Et en chemin, il leur posa cette question. Les gens, qui disent-ils que je suis? Ils dirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes. Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus le recommanda sévèrement de ne rien dire à personne de ce qui le concernait. Jésus va faire une petite randonnée avec ses disciples, enfin, petite, 40 killes. Il y en a qu'on le fait 25 la semaine passée, j'ai entendu. 40 killes avec ses disciples, et ils vont de Bethsaïda à Césarée de Philippe. Césarée, donc ce nom avait été donné à ce lieu en l'honneur de César. César qui est appelé Seigneur, Roi. C'est un élément assez intéressant ici dans ce contexte, parce que Marc est écrit pour des gens qui habitent à Rome. Et Jésus va se faire connaître ou clairement manifester le fait qu'il est Christ dans un lieu où on appelle César Seigneur. Donc c'est quelque chose de très fort qui se passe ici au niveau du lieu. Et Jésus initie le sujet pour poser une question essentielle, à savoir qui il est. Et tout d'abord, pour ne pas mettre les disciples mal à l'aise, il leur demande qu'est-ce que les gens disent. Hein, si vous voulez pas mettre quelqu'un mal à l'aise, quand vous voulez poser une question, vous dites, qu'est-ce que les autres disent d'abord? Comme ça, ça permet de réfléchir. Qu'est-ce que les autres disent? Et la réponse des disciples est similaire à celle que nous avons déjà vue dans Marc 6, lorsque nous avons parlé de Hérode, hein, qui se disait, mais c'est Jean-Baptiste, d'autres disaient c'était Élie, d'autres un prophète, etc. Hein, donc, pourquoi les gens pensaient que c'était Jean-Baptiste? C'est parce que Jésus appelait à la repentance, comme Jean-Baptiste. Pourquoi certains pensaient que c'était Élie? Bon, parce qu'il devait venir aussi, mais parce qu'il a fait des miracles, Élie. C'est un des prophètes qui a fait des miracles. Hein, et d'autres disaient c'est un prophète parce qu'il enseigne. Il enseigne les foules. Et puis, j'étais un peu curieux, en fait, en préparant cette prédication. Je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens de Neuchâtel pensent de Jésus, en fait? Alors, j'ai pris le temps, lors du dernier stand, jeudi, d'aller poser la question aux gens, leur disant, mais qui est Jésus pour vous? Et sur la vingtaine de personnes interrogées, il y a donc des hommes, des femmes, des plus jeunes, des plus âgés, des personnes d'ici, des personnes d'ailleurs, enfin, c'est vrai. Voici leur réponse. 5 personnes m'ont dit que c'était un prophète. 5 personnes m'ont dit ne pas le connaître. 3 personnes m'ont dit qu'il n'était rien pour eux, et d'ailleurs un m'a même dit qu'il n'était non-croyant et qu'il avait raison. Une personne m'a dit que les chrétiens disent que c'est le Fils de Dieu. Mais moi, j'y crois pas. Une personne m'a dit que c'était un brave homme. Une personne m'a dit que c'est le patron. Une personne m'a dit qu'il était tout pour lui, mais qu'il allait à l'église seulement quand il le lui disait. Une personne m'a dit qu'il était son ami. Et 2 personnes m'ont dit que c'était leur Seigneur, leur Sauveur, leur Roi, qu'il était tout pour eux. Voilà, donc je me suis dit que c'était quand même assez proche de ce que les disciples ont entendu à l'époque, en fait. Et Jésus leur demande, mais vous, qui dites-vous que je suis? Une question personnelle, une question que Jésus pose encore aujourd'hui. Qui est Jésus pour toi? Si c'était toi que j'étais venu poser la question dans la rue et que vous ne me connaissiez pas, qui est Jésus pour toi? Et Pierre lui dit au nom de tous les disciples, tu es le Christ. Tu es le Christ. Ce qui signifie, tu es celui que Dieu allait envoyer comme roi. Hein, lui, c'est ce qu'il avait vraiment en tête, cette notion de celui qui est oint, le roi, le fils de David. Hein. Tu es celui que Dieu allait envoyer comme roi, celui qui est oint. Et Pierre et les disciples sont maintenant certains que Jésus est envoyé par Dieu et qu'il a la puissance de Dieu. C'est certain. Et on n'y reviendra plus dans l'évangile de Marc. Parce que c'est quelque chose d'acquis. C'est quelque part cette première étape où ils voient déjà quelque chose, même si c'est encore comme des arbres qui marchent. Hein. C'est un moment important dans la vie des disciples et particulièrement pour Pierre, qui ici le fait rapporter dans le journal écrit par Marc. Hein, il a verbalisé sa foi et il a été approuvé par Jésus. Mais Jésus demande de ne le dire à personne. Pourquoi ? Parce que le rôle de Messie était compris à l'époque comme étant le libérateur des Romains. Alors que Jésus était venu pour une autre libération, une libération qui dure bien plus longtemps, une libération qui est bien plus profonde et qui touche bien plus de monde. Tous ceux qui croient en lui. D'ailleurs, croyez-vous en lui ? Alors comme l'aveugle qui a commencé à voir, les disciples étaient maintenant convaincus que Jésus était le Messie. Mais Jésus voulait qu'ils comprennent sa mission. Et c'est notre prochain point qui parlera du deuxième aspect de la mission de Jésus. Mais cette question, qui est Jésus pour toi, devrait continuer à rester dans nos têtes. Qui est Jésus pour toi ? As-tu déjà au moins l'aspect du Créateur, du Roi, du Souverain de l'histoire, de celui qui a la toute puissance que nous voulons servir ? Ou n'est-il que ton Sauveur, ton Pourvoyeur, ton Thérapeute, ton Ami, celui sur qui tu peux compter, mais à qui il ne te viendrait même pas l'idée de rendre des comptes ? Peut-être que les étapes aujourd'hui sont un peu inversées par rapport à ce que les disciples ont pu vivre. Ou n'est-il rien pour toi, comme plusieurs me l'ont dit dans la rue de Neuchâtel ? Ou est-il simplement un prophète, comme le disent les musulmans ? Ou un brave homme ? Mais alors il n'est ni roi, donc Seigneur, ni sauveur, donc capable de sauver. Jésus veut que ses disciples connaissent les deux aspects, sa royauté et son œuvre de rédemption. Voilà pourquoi il commence à leur parler de ses souffrances. Et c'est la première fois qu'il en parle. Et il n'utilisera pas le terme « Messie » pour parler des souffrances. Il parlera du « Fils de l'homme ». C'est le terme que Jésus a choisi d'utiliser pour qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà pourquoi Marc utilisera désormais beaucoup plus ce terme « Fils de l'homme ». Il l'a utilisé que 2 fois jusqu'à maintenant, il va utiliser 12 fois jusqu'à la fin de l'évangile de Marc pour parler de Jésus-Christ qui est ce serviteur souffrant. Réfléchissons donc maintenant à cette révélation importante, notre troisième point, et j'aimerais lire avec vous les versets 31 à 33 du chapitre 8 de Marc. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il disait ces paroles ouvertement. Et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus parle ici de sa mission en 4 étapes. Il va beaucoup souffrir, il va être rejeté, il sera mis à mort et il ressuscitera après 3 jours. Jésus sait parfaitement ce qui va lui arriver et il le répétera à ses disciples. On a le chapitre 9, verset 32, chapitre 10, verset 33-34. Enfin, il le répète plusieurs fois afin qu'ils comprennent que Jésus savait ce qui était devant lui et qu'il est venu volontairement donner sa vie. Ce n'était pas un accident. Et que cela faisait partie de la mission qui était prévue. Ils se souviendront après, justement, qu'ils savaient tout, qu'ils maîtrisaient tout. Les disciples comprendraient qu'ils sont avec un Messie bien plus grand qu'ils n'avaient imaginé. Un Messie bien plus grand qu'ils n'avaient imaginé. Il n'était pas seulement venu pour la nation d'Israël, mais pour les personnes de toutes les nations, y compris les Hébreux, qui croiraient en lui. Donc ça, c'est des choses que les disciples vont pouvoir comprendre par la suite en comprenant ce que Jésus leur dit ici. Mais bon, à ce moment-là, ils n'avaient encore pas compris cela. Et à la première annonce des souffrances et de sa mise à mort, sans comprendre ce que signifiait la résurrection, ça je pense que c'était quelque chose qui n'était pas compris à ce moment-là, le sang dans les veines de Pierre ne fait qu'un tour. Il dit, ah non, non, je viens de dire que c'est le Christ, le Messie, le Roi, celui qui nous délivre. Alors, c'est le chemin vers la délivrance de l'oppresseur, une gloire d'être auprès de lui, la puissance, les pains multipliés, les tempêtes apaisées, enfin vous voyez quoi. Alors voilà que Jésus parle de souffrance, de rejet, même de mort. Non, il faut intervenir, il faut faire quelque chose. Là en fait Pierre veut bien faire, il dit mais non, faut qu'on surfe sur cette vague, c'est important. Et en fait il va venir vers Jésus. pour lui dire, mais attends, reviens un petit peu en arrière là. Ce qui vient de se passer, cette reconnaissance de qui tu es en tant que Messie. Mais faire des reproches à Jésus, et dire au maître qui vient de prouver durant les mois précédents qu'il manifeste les attributs de Dieu en maîtrisant la nature, faire des reproches en lui disant que cela n'arrivera pas, c'est traiter Jésus de menteur. C'est le prendre de haut. C'est en fait renverser les rôles et devenir son maître. C'est définir lui-même quelle était la volonté de Dieu que Jésus suivait toujours. C'est empêcher Jésus de vivre ce pourquoi il était venu sur cette terre. Si Pierre a pris Jésus à part pour le faire revenir à la raison, Jésus lui parlera devant tous les disciples pour remettre Pierre à sa place. Et il commence par lui dire « derrière moi ». Enfin, c'est écrit ici « arrière »,« arrière de moi ». Mais le terme, c'est le même que par la suite si quelqu'un veut venir après moi me suivre. Hein. C'est « derrière moi ». Il remet Pierre en fait à sa place, qui n'est pas devant lui, mais derrière lui. Ensuite, il dit « Satan ». Waouh, c'est vraiment fort ici. Mais ça signifie qu'il veut manifester ici que ce qu'il a dit est en fait en ennemi face à Jésus. C'est un mensonge, c'est une tentation, c'est une tromperie qui lui est proposée. Et en fait, Jésus utilise ce message si fort que Pierre n'osera plus jamais reprendre Jésus face à sa mission. Il dira encore une ou deux fois, comme avec les pieds, ne me touche pas, etc. Mais il ne viendra plus sur cette notion de mission. Il a compris là. Et Jésus dit encore, « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Pour que Pierre comprenne que s'il a pu reconnaître que Jésus était le Christ, c'est pas parce qu'il était meilleur que les autres. C'est pas parce que lui, c'était celui qui avait tout le temps une pensée qui était fantastique. C'est Dieu qui lui avait révélé ça. C'est parce qu'il était le porte-parole d'une vérité capitale que Dieu lui a donnée, et ça signifiait pas qu'il allait se mettre devant Jésus. Il devait rester derrière Jésus. Si Jésus réagit si fort, c'est pas pour faire du mal à Pierre, mais c'est pour qu'il reçoive ce message si fort. Alors c'est vrai que bien des personnes, peut-être aujourd'hui dans notre monde sentimental, iraient vers Jésus et lui dire « Ok, t'avais raison, mais maintenant tu vas demander pardon parce que la forme que tu as utilisée était vraiment trop violente. » Mais Jésus n'a pas péché, là non plus, parce que Jésus n'a jamais péché. Parfois, faire reprendre la bonne direction est faite avec une grande force. Si vous avez un bateau qui va dans une direction et qui doit changer de direction, on peut pas juste essayer de tourner quelque chose. Il faut une grande force pour qu'il change de direction. C'est exactement ce que Jésus a fait ici avec Pierre. Et comprenons bien pour nous aussi, tout ce qui est écrit dans la Bible, même si ça nous fait pas plaisir, comme pour Pierre ici, eh bien c'est la vérité. Et nous n'avons pas à faire des reproches à Dieu, son auteur, mais simplement de le suivre. Et comme Pierre d'ailleurs l'a compris par la suite, il devra faire confiance à Jésus et être derrière Jésus et non pas devant Jésus. Alors cette mise au point terminée avec Pierre et ses disciples, Jésus appelle la foule vers lui, hein, et leur indique ce que signifie venir après lui. Intéressant, quand il parle du Messie, faut pas que ça soit su. Quand il parle de sa mission, de la souffrance et de l'œuvre qu'il va faire de rédemption, il faut que tout le monde le sache. Si Jésus ne veut pas que son aspect de Messie soit répandu, c'est simplement parce qu'il ne veut pas une mauvaise compréhension qui était donc à l'époque. Il va même jusqu'à dire que celui qui prend la décision de venir derrière lui vivra des conséquences semblables à lui. Mais tout de suite après, il donne quatre raisons qui devraient convaincre de se mettre dans son sillage. Mais j'aimerais relire avec vous les versets 34 à 38. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Jésus souligne ici trois engagements pour aller derrière lui. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix et suivre Jésus. Alors ces trois engagements feraient fuir n'importe qui s'il n'ajoutait pas les quatre arguments qui vont venir derrière ces engagements, qui nous permettent de voir que ce qu'il y a derrière est ce qu'il y a de mieux. Mais avant de nous arrêter sur ces quatre arguments, j'aimerais quand même voir ces trois engagements rapidement. Premièrement, renoncer à soi-même. Il ne s'agit pas ici de renier ce que Dieu a fait de nous, mais de renoncer à être notre propre Dieu, à vouloir être Dieu. Il faut bien comprendre cela. Donc, renoncer à soi-même, il ne s'agit pas de renier de ce que Dieu a fait de nous, avec notre caractère, avec ce qui nous sommes, etc. Mais de renoncer à être son propre Dieu, à vouloir être Dieu. C'est pouvoir dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie présente, dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous utiliserons donc les dons que Dieu nous a donnés à fond. Nous mettrons toute notre énergie à travailler pour le bien commun et nous le vivrons pour la gloire de notre modèle et maître qui faisait toujours la volonté de son. Voilà ce que c'est renoncer à soi-même. Deuxièmement, se charger de sa croix. Alors le deuxième engagement n'est pas très facile à comprendre actuellement. Parce que soit on romantise la croix ou soit on la méprise. Mais il faut bien comprendre que pour les auditeurs de Jésus, la croix signifiait au moins quatre choses. Je vous donne déjà les quatre mots. Opposition, honte, souffrance et mort. Opposition, honte, souffrance et mort. En fait, l'opposition, c'est un acte officiel pour faire plier l'opposition à l'empire. Voilà pourquoi on faisait même porter la croix pour aller jusqu'au lieu d'exécution, pour qu'en fait, il montre sa soumission à l'empire. L'opposition, donc faut faire plier l'opposition à l'empire. Et si on s'est opposé à Jésus, eh bien, on s'opposera aussi à ceux qui le suivent. Deuxièmement, la honte, une mise en scène pour humilier et faire honte à celui qui ne suit pas le règne du monde, ou de l'Empire, là. Si on a humilié Jésus, on humiliera aussi ceux qui le suivent. La souffrance, troisièmement, une œuvre punitive et dissuasive afin que personne ne s'oppose aux Romains. Si on a puni injustement Jésus, on punira aussi injustement ceux qui le suivent. Et quatrièmement, une entreprise d'élimination physique de ce qui gêne. Si on a éliminé Jésus, on éliminera aussi ceux qui le suivent. Se charger de sa croix, c'est donc être l'objet de combats, de mépris, de malveillance, de meurtre des ennemis de Jésus. Et troisième engagement, c'est suivre Jésus. C'est une confiance totale à Jésus. Ce n'est pas nous qui ouvrons le chemin, qui choisissons les routes, qui donnons le rythme, c'est lui, puisque nous le suivons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces trois engagements ne font pas du tout envie à notre chair. Pas du tout. Jésus ne fait pas de publicité alléchante ici. Il dit la vérité à ses disciples. Il présente ce que signifie le deuxième aspect de sa personne pour ceux qui viennent derrière lui. Mais il va maintenant donner quatre arguments qui invitent à le suivre. Quatre arguments. Je vous les donne, puis on les regarde rapidement. Le premier, c'est sauver pour perdre ou perdre pour sauver. Sauver pour perdre ou perdre pour sauver. Deuxièmement, gagner le monde pour perdre son âme. Gagner le monde pour perdre son âme. Troisièmement, un rachat impossible. Un rachat impossible. Et quatrièmement, la honte ou la gloire. La honte ou la gloire. Alors, le premier argument, sauver pour perdre ou perdre pour sauver. Donc là, je prends le texte de Marc 8, 35. J'aimerais le relire en faisant un ou deux petits commentaires. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie présente. Donc le présent n'est pas dans le texte, mais c'est pour comprendre. Donc quiconque, en effet, voudra sauver sa vie présente, la perdra éternellement. Mais quiconque perdra sa vie présente à cause de moi et de l'évangile, la sauvera éternellement. Pour qu'on comprenne un peu les notions qui sont derrière. Donc, quiconque veut sauver sa vie ici signifie ne pas prendre sa croix, qui signifie chercher l'acceptation, la reconnaissance, le confort, la sécurité pour sa vie ici-bas dans ce monde. Ça, c'est l'objet des recherches de celui qui ne veut pas porter sa croix. Et les conséquences, ou la conséquence, c'est la perte éternelle. Quiconque perdra sa vie signifie ici prendre sa croix, accepter l'opposition du monde, qui veut nous faire renier le seul chemin qui mène à Dieu. Accepter la honte du monde, pour rester fidèle aux valeurs de Jésus. Accepter la souffrance injuste à ceux qui s'opposent à Dieu, et même vouloir être prêt à donner sa vie, au lieu de renier notre Seigneur. De dire, je veux être prêt, on ne peut pas dire je suis prêt, ça on ne peut pas le savoir, mais je veux être prêt, que si quelqu'un me demande de renier Jésus-Christ ou de mourir, eh bien, je préfère mourir, parce que la conséquence, c'est un gain éternel, et pas une perte éternelle. Et la célèbre phrase de Jimmy Elliot vient du passage parallèle de Luc 9:24, mais c'est un passage parallèle. Cet homme qui a été tué par ceux à qui il est allé apporter l'évangile, disait « Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. »
Bon, ça, faut réfléchir, évidemment.
« Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut perdre ou qu'il ne peut garder, pardon, pour gagner ce qu'il ne peut perdre. Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. » En fait, c'est la même chose que ce que dit Jésus ici, dans ce texte. Deuxième argument que Jésus donne, c'est gagner le monde pour perdre son âme. Hein, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» En fait, il n'y a aucun profit à gagner le monde entier. Il y a tant d'histoires de personnes riches et célèbres au sommet de leur gloire qui se sentent vides et qui parfois même se suicident car elles n'ont pas de sens. Elles ne connaissent pas leur valeur en Christ. Leur âme est perdue. Gagner le monde, c'est l'inverse de prendre la croix. C'est ne vivre aucune opposition, c'est vivre dans la gloire, c'est chercher le confort à tout prix, c'est chercher l'immortalité qui n'existe pas dans notre chair. Gagner le monde et perdre son âme. Ou perdre le monde en prenant sa croix et gagner son âme. Si l'on vous donnait accès à un compte illimité pour toute votre vie, que vous avez accès à tous les postes de travail que vous voulez, rien ne vous serait refusé, mais que votre vie s'arrête dans 30 ans et qu'ensuite vous allez souffrir pour toujours. Enfin, ça c'est écrit en tout petit en bas du contrat. Ou alors, vous devez travailler dur pour survivre, on se moquera de vous parce que vous ne pensez pas comme le reste de la société, bien souvent vous ne pourrez pas faire de loisirs pendant que d'autres en feront. Il est même possible que quelqu'un, parce qu'il n'aime pas votre honnêteté, vous tire dessus. Et si ce n'est pas avant, votre vie s'arrêtera dans 3 ans. Et ensuite, vous allez être dans une situation de bonheur sans ombre pour toujours. Que choisissez-vous ?
Ouais, c'est facile, assis sur notre chaise ici. Hein. C'est vrai. Mais ça vaut la peine de réfléchir.
Parce que ça a des implications dans ce que nous vivons chaque jour. Que choisirons-nous ? Jésus a dit... Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Il continue en disant verset 37, « Que donnerait un homme en échange de son âme ? L'homme qui a des moyens financiers cherche à se faire plaisir, à augmenter sa fortune, à devenir puissant, à être connu comme philanthrope, pourquoi pas, hein ? Et à réaliser des projets fous. En fait, il cherche un sens à sa vie. Il veut même... pour certains, préparer l'avenir en mettant en place une technologie qui permettrait l'immortalité.
Mais qui ne fonctionne pas sans énergie, en passant.
Bon. Bien souvent, les gens ne veulent pas réfléchir à l'avenir éternel.
Ça, c'est la situation assez habituelle. Si à la place Spurie, je pose la question, que pensez-vous de votre avenir éternel? Les gens, souvent, alors ça, je l'ai encore pas fait, enfin, je l'ai pas fait de manière systématique. Mais généralement, on dit, je sais pas, et je veux pas le savoir. Ça m'intéresse pas.
De toute façon, personne ne le sait.
Pourtant, Jésus est venu de cette éternité. Il nous en a parlé.
Pourtant, si quelqu'un réfléchit vraiment à sa situation et comprend qu'il n'y a que deux possibilités après la mort, mais ne donnerait-il pas pour être dans le bonheur éternel ? Il donnerait tout.
Jésus a dit d'ailleurs, travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas l'homme qui donne pour acheter son âme.
Ce n'est pas l'homme qui donne pour acheter son âme. Parce qu'il n'a pas la capacité de racheter son âme. C'est pas possible.
L'Évangile, c'est Dieu qui se donne pour racheter l'âme de l'homme. L'Évangile, ce n'est pas l'homme qui donne pour racheter son âme, mais Dieu qui se donne pour racheter l'âme de l'homme. Voilà un argument supplémentaire que Jésus donne pour le suivre. Prenez ma croix, suivez-moi. Parce que c'est impossible de racheter votre vie autrement que de le recevoir de moi. Et quatrième élément, la honte ou la gloire. Verset 38. En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Le quatrième argument ne peut être compris que par celui qui sait que le Fils de l'homme est le juge suprême, celui qui régnera pour l'éternité, celui qui décidera qui sera sauvé, donc qui vivra éternellement dans ce qui fait du bien, si vous voulez, hein, et qui sera perdu, donc qui vivra éternellement dans ce qui fait mal, si vous voulez. De qui sommes-nous prêts à avoir honte ? De celui qui peut donner la vie éternelle ? Ou de ce monde qui nous entraîne à la perdition. Jésus demande quelque chose de difficile, mais qui conduit au bonheur. Le monde demande quelque chose de facile, mais qui conduit au malheur. Et le sportif peut comprendre cela. Parce que le sportif est prêt à faire tous les sacrifices difficiles pour la médaille d'or. Il se fait même moquer par ses copains, parce qu'il sort, puis il lui sort pas, parce qu'il mange une façon particulière, et puis etc. Mais il a un objectif, il a une médaille. Sommes-nous prêts à supporter les difficultés de la croix qui se manifestent dans nos vies? Parce que nous savons que nous avons une médaille éternelle. Et en plus, le sportif, c'est pas sûr, alors que pour nous, c'est sûr. Sommes-nous prêts à défendre la vie, alors que la société, par l'avortement et l'euthanasie, défend la mort? Sommes-nous prêts à défendre la pureté, alors que la société, par les mouvements sexualisants actuels, défend l'impureté et veut que la honte change de camp? Sommes-nous prêts à être honnêtes alors que notre patron veut plus de bénéfices? Sommes-nous prêts à renoncer à ce que nous ne pouvons garder pour gagner ce que nous ne pouvons perdre? Nous arrivons à la conclusion. La guérison de l'aveugle où Jésus a été présent jusqu'à la fin, comme je l'ai dit, Jésus était présent jusqu'à la fin, a introduit tout ce périple qui a permis à Jésus d'enseigner deux aspects de sa mission à ses disciples. Le premier, c'est qu'il est le Christ et qu'il leur assure la gloire et la victoire. Ils avaient bien compris que le Christ, c'était la victoire. Ils n'avaient juste pas compris quelle victoire. Mais oui, c'est vrai. Christ nous assure cette victoire finale. Et la seconde partie de sa mission leur annonce les difficultés, l'opposition dans le pèlerinage. Et nous ne devons pas être surpris de l'opposition. Nous devrions même nous y préparer, être prêts. Alors la question qui nous reste ce matin, c'est, sommes-nous encore aveugles? Donc, aveugle, c'est ne pas voir Jésus comme Christ roi, si vous voulez, ou comme sauveur. Si Jésus, pour nous, c'est ni un Christ roi, ni un sauveur, c'est que nous sommes aveugles et que nous sommes en train de perdre notre âme. Et je ne peux que vous inviter à prier Dieu qu'il vous montre votre situation, étudie sa parole pour le découvrir. Ou sommes-nous encore malvoyants? Donc, ne voyant peut-être qu'un aspect ou l'autre, hein, ne le voyant que comme sauveur ou comme roi. Cela signifie que nous ne voyons pas distinctement. Et il faut voir distinctement pour être sauvé. Si c'est votre cas, que vous ne voyez que votre sauveur ou votre roi, eh bien, priez que Dieu révèle votre péché afin de le voir comme roi à qui vous devez rendre compte que vous avez offensé. Ou priez pour saisir par la foi l'œuvre de salut qu'il a accomplie pour que votre âme soit rachetée. Où avez-vous retrouvé la vue en saisissant que Jésus-Christ est Christ, Sauveur, ce qui signifie que nous allons vivre dans un royaume éternel, mais que avant, ce ne sera pas toujours facile. Mais il sera toujours là. Suivons donc Jésus en regardant nos yeux fixés sur lui, tel un sportif qui se prépare pour une compétition qui a pour médaille le bonheur éternel. Nous allons prier. Seigneur, tes disciples ont parfois dû être bien surpris par tes paroles. Ils ont dû être amenés à réfléchir, à être dans des questionnements. Et tu continues à le faire, Seigneur, pour nous aujourd'hui. Tu nous pousses à nous questionner. Et j'aimerais, Seigneur, te prier que les réponses à ces questions que nous pouvons donner, eh bien, nous permettent de nous réjouir, de venir à toi, de nous réjouir de ton œuvre. Que nous puissions, si quelqu'un nous demande de la rue qui est Jésus pour nous, que nous puissions témoigner clairement, avec force, comme ces personnes ont pu le faire, dont j'ai été témoin, Seigneur, et réjoui, heureux de voir cette joie de parler de toi alors qu'ils ne me connaissaient pas. Seigneur, j'aimerais te remercier parce que c'est pour nous aussi des exemples, des encouragements, parce qu'aujourd'hui encore on peut être fier de Jésus-Christ lorsqu'on nous demande la raison de notre foi. Ô Seigneur, garde-nous de nous éloigner de toi, garde-nous de ne plus fixer nos regards sur toi, garde-nous de chercher à voir avec nos propres forces. Nous verrons trouble, Père. Nous l'avons déjà constaté dans nos vies. Oh, donne-nous, Seigneur, de te regarder, afin de voir les choses clairement dans ce que nous vivons et dans la mission que nous avons aussi, d'annoncer ta parole autour de nous, d'être des personnes qui s'aiment, qui arrosent par la prière, qui se réjouissent de ce que tu fais pousser, afin que beaucoup encore puissent reconnaître, te reconnaître comme le seul Seigneur et Sauveur. Pour ta gloire et pour la joie éternelle. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.